Ah mais je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît?
J'arrive meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. En vrai, ça va. Je suis un peu fatiguée. J'ai l'impression que c'est un peu ma dernière ligne droite avant les vacances et de arriver chez mes darons et de poser mon cul et de ne plus rien foutre jusqu'à ce que je revienne ici, à Lyon. Mais en vrai, ça va, c'est cool. Je pars à Copenhague la semaine pro et ça, mais j'ai tellement hâte d'être dans un aéroport, dans un avion et de repartir dans un autre pays en mode Mimo vadrouille is back. Mais en tout cas, j'espère que toi, ça va de ton côté. En tout cas, c'est une période un peu cool et compliquée à la fois. Parce que je sais pas toi, mais en fait, on aggrave ce truc de la fin d'année. On refait un peu une rétrospective sur comment notre année s'est passée, sur un peu comment on veut que 2024 se déroule. Et peut-être que tu es super content, contente. Peut-être que tu es frustrée avec toi-même. Peut-être que tu aurais voulu faire autre chose. Et enfin, c'est un peu une période de l'année que je trouve hyper cool dans certaines circonstances de retrouver un peu sa famille. Et enfin, c'est les fêtes, si t'aimes bien Noël. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu ma période de remise en question, même si je pense que je me remets en question beaucoup trop au long de l'année. Mais c'est un peu ce dont je vais parler aujourd'hui, parce que j'ai l'impression d'être une ado dans le corps d'une adulte. J'ai 21 ans, je suis née en 2002, mais en réalité, dans ma tête, je pense que j'en ai 19-20. C'est-à-dire que là, en plus, ça me fait flipper, parce que, ok, j'ai 21 ans, mais techniquement, je suis sur ma 22e année. Ça peut être un peu flou, si t'as pas capté ça, c'est seulement cette année que j'ai capté ça, et je suis un peu conne, et c'est un peu tard. Mais genre, là, j'ai déjà vécu 21 ans sur Terre, et là, je suis en train de vivre ma 22e année. Bref, ça m'horripile, ça me fait trop bizarre de dire ça parce que profondément dans ma tête, je suis convaincue que j'ai genre 19-20 ans. Et même si des personnes vont me dire qu'il n'y a pas une grosse diff, on se comprend. Et je pense que beaucoup de personnes, enfin si tu écoutes ça, on se comprend. On sait que là, il y a un écart entre nos têtes et qui on est en train de devenir. Et ça fait clairement flipper pour le coup. Et je pense qu'on peut en parler, mais j'essaye de poser des mots sur plein d'émotions que je vis ces derniers temps et que je vis depuis un moment quand même, je pense depuis mon anniversaire en août. Mais voilà, c'est un peu comment on va voir les choses. J'ai encore divisé cet épisode en deux parties. La première étant l'auto-pression, la pression qu'on va se mettre nous-mêmes avec le fait de grandir, d'évoluer d'une certaine façon. Et aussi, du coup, dans une deuxième partie, la pression générationnelle qu'on peut ressentir dans le monde qui entoure et enfin, la génération dans laquelle on est et comment on grandit. Bref, c'est un peu l'organisation. Si je devais faire un peu le point sur ce qui s'est passé en 2023, ça a été l'année la plus bizarre de ma vie. Sincèrement, je l'ai commencé, j'étais en Erasmus en Allemagne. J'ai l'impression que c'était il y a 7 ans. Vraiment, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps. Je suis partie en Grèce, je me suis scolarisée, déscolarisée. J'étais dans je sais pas combien de pays, le podcast a fonctionné. Enfin, je sais pas, il y a des trucs que j'aurais jamais, mais au gros jamais prévu qui se sont passés. Et du coup, d'un côté, ça me fait un peu flipper pour 2024 parce que quand je te dis que je n'ai zéro idée où je serai l'année prochaine, c'est-à-dire je ne sais pas si je fais un master ou non, je ne sais même pas si je vais devoir déménager à Paris pour mon stage, si je vais devoir déménager à Paris pour mon... Enfin, tout. J'ai l'impression que genre, à chaque année, la scolaire, on doit se remettre en question, de se dire, ok, vas-y, tu viens d'arriver en études sup, tu veux faire quoi comme études après? Tu veux faire quoi comme master? Tu veux faire quoi comme stage? Ou même, t'es trop au lycée, on est en train de te dire, tu veux faire quoi comme études sup? Et je suis en mode, waouh! Je sais même pas ce que j'ai envie de manger ce soir. Et là, tu me poses des questions. Et j'ai toujours la question. Et après, genre, tu viens de faire ton bachelor. Et après, tu veux faire quoi comme master? Et après ton master, tu veux faire quoi? Je sais pas, frère. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse à te donner. Donc, 3 minutes là. Et je pense qu'à cause de tout ça et la génération, les questions qu'on nous pose, on s'impose une forme d'auto-pression. Enfin, du moins, c'est la manière dont moi, je le vis. Je pense que je m'impose une sorte de pression à performer d'une certaine manière, à être productive d'une certaine manière. Sauf que j'ai envie de commencer cet épisode en parlant de ma théorie des poupées russes. Alors si jamais vous avez écouté l'épisode avec Léa, il me semble que c'était sur le podcast de Simple Caféine, sur l'épisode que j'ai fait sur le sien, que j'en ai parlé. Mais la théorie des poupées russes, c'est une théorie que j'ai inventée, du moins à ma connaissance, je n'ai jamais vu ça ailleurs, je crois. Mais ma théorie, c'est que j'ai 21 ans, mais j'ai également 20 ans, j'ai également 18 ans, j'ai également 19 ans, j'ai également 5 ans. En fait, chaque version ultérieure de moi qui a existé avant existe encore à l'intérieur de moi. C'est pas parce que j'ai 21 ans que j'ai plus de 17 ans. Et tu dois te dire, attends, je comprends pas là. Mais dans le sens où, par exemple, récemment, je suis retombée dans mes mauvaises habitudes, j'ai rencontré des nouveaux mondes, et tu sais, c'est un peu dur de savoir qui on est et de un peu se réinventer, enfin, c'est un peu compliqué. Et je me suis rendu compte que j'ai critiqué quelqu'un. vraiment, j'ai critiqué quelqu'un et je suis quelqu'un très honnête de base et je communique énormément. Et si je n'aime pas une personne pour X ou Y raison, c'est souvent qu'il y a une raison et la personne est très souvent au courant. Et là, je pense que c'était le cas où la personne n'était pas forcément au courant. Et je me suis dit, mais Amélia, mais qu'est-ce que tu fous ? Enfin, c'est le truc que tu as fui pendant hyper longtemps et là, tu retombes dedans. Et en fait, je me détestais et j'ai l'impression que plus je grandis, moins je pardonne mes erreurs parce que plus je me dis, bah, Amélia, t'as fait de l'effort pour travailler là-dessus, tu grandis. Et là, en fait, je retombe dans mes mauvais travers et en fait, je me déteste. Mais en même temps, je me dis, stop, c'est pas grave. Écoute, l'Amélia de 17 ans est encore à l'intérieur de toi, c'est elle qui a repris le déçu, maintenant, ressaisis-toi. Et ça va pour plein d'autres choses. Genre, si à un moment, tu chiales parce que tes parents, ils te manquent parce que t'es en études supérieures, ou tu te sens dépassé par ta machine à laver parce que t'es en études supérieures et tu comprends pas comment ça marche, bah c'est toi qui as 12 ans ou toi qui as 5 ans qui est devant et c'est normal. En fait, t'as des émotions qui vont ressurgir à des moments et c'est juste ma théorie des poupées russes, c'est que dès que je commets une erreur, après bien sûr je ne rejette pas totalement la faute sur d'autres versions de moi, mais je pense que ça me permet d'être beaucoup plus indulgente envers moi-même alors que de base je suis assez perfectionniste et j'ai beaucoup d'attentes envers ce que je produis et la manière dont je suis et c'est super. Sauf que bah du coup ça me porte préjudice notamment au niveau de ma santé mentale et mes attentes envers moi-même parce que j'en attends tout simplement trop. Voilà, j'ai parlé un peu vite, mais je pense que c'était vraiment la théorie dont j'avais envie de parler dans ce podcast, et à moins que je l'intègre même dans le titre, tellement qu'elle me paraît importante, parce que ça me permet de me reposer un peu et de moins psychoter en me disant « Ok, écoute, si je commets une erreur, c'est des versions avant de moi, même si j'ai travaillé pendant longtemps à éliminer un peu ces mauvaises habitudes, c'est pas grave, elles peuvent ressurgir et c'est ce qui arrive. » Et pour rejoindre ça, on est dans une période un peu de nos vies, genre là, entre 16, 25, même plus, je pense, où on change constamment. On change de groupe de potes, on change d'environnement, on change de tout. Et du coup, c'est normal que nous aussi, on change avec notre environnement qui change, même naturellement. Et en fait, des fois, j'arrive pas trop à savoir si j'étais mieux avant sur certains aspects, parce que peut-être que je suis devenue plus dure, plus exigeante, ou en fait, j'arrive pas à savoir si, quand je me rends compte que j'ai changé, est-ce que c'est une bonne chose ? Parce que du coup, comme j'ai parlé dans les ruptures amicales, en fait, tu finis par laisser des personnes derrière, ou tu finis par t'embrouiller avec certaines personnes, et du coup, c'est cette remise en question constante de se dire, purée, en fait... Tu vois, tu commences à être une adulte, t'es commencé un peu à être la version un peu plus stable de toi-même et t'es là en train de changer tout le temps, en train de perdre des personnes qui ont été dans ta vie pendant longtemps. Et moi, ça a toujours été une remise en question. Sauf qu'en fait, je pars un peu du principe que tout se passe pour une raison et que si j'ai agi comme ça, c'était pour m'apprendre quelque chose. Et encore une fois, ça se trouve, c'était des versions ultérieures de moi qui agissent, mais que c'est un peu naturel. Et en fait, je me rends compte que même si là, je passe par exemple une période hyper compliquée de rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux liens... C'est pour le mieux et ça va me permettre de faire le tri ailleurs, même si la période à l'instant T que tu traverses ou que je traverse, ça pue la merde. En vrai, j'ai l'impression que je m'en sors pas plus mal à la fin, même si c'est dur de voir la lumière au bout du tunnel quand tu danses ce truc de « c'est la merde, je change trop, je sais pas qui je suis » et tout. Puis en parlant de ce truc de déséquilibre dans notre vie, de changer d'année scolaire, de stage et tout... Si jamais tu es en études supérieures, peut-être que tu vas me comprendre, notamment si tu es à peu près genre, je sais pas, 21 ans, bref. Moi, j'en suis au niveau du bachelor master. Enfin, moi, du coup, j'ai un an de moins niveau scolaire parce que j'ai fait une année sabbatique. Bref, du coup, moi, je dois passer un master l'année prochaine. Mais j'ai une phobie du CDI. J'ai une phobie de finir mes études. Alors, je sais que j'ai pas mal de copines qui sont en mode, ah, j'ai trop hâte, machin. Mais là, j'ai trop peur de finir mes études. Je n'ai pas envie d'être dans la vie active. Mais je sais que je pense que ça ira mieux au bout d'un moment parce que l'année dernière, j'avais une phobie de l'alternance. C'est-à-dire que j'avais plein de potes qui avaient envie de faire de l'alternance. Et moi, j'étais en mode, vous êtes malade, genre, c'est la vie active. Je ne veux pas du tout faire ça. Moi, j'ai envie de refaire une année un peu scolaire. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que l'alternance, l'année prochaine, ça ne va pas forcément me déplaire. Enfin, niveau organisation, je ne sais pas comment je vais faire. Mais niveau professionnel et tout, c'est vrai que c'est un truc qui m'attire beaucoup plus. Et les choses, je pense que juste, j'étais pas prête mentalement l'année dernière. Et que maintenant, ça me paraît beaucoup plus évident et j'en ai presque envie, enfin même envie. Du coup, j'espère et j'ose espérer que ça soit ça avec la vie active. Et peut-être que toi, t'es pareil dans le sens où là, l'idée de finir mes études et de me dire c'est fini. Genre là, il n'y a plus d'issue de secours. C'est là, tu signes un CDI et c'est bon. Je suis en mode waouh. Parce que je pense que ça rejoint mon truc de j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à vivre avant de signer un CDI. Je sais pas, peut-être se trouve que là t'as un CDI et tu vas me dire mais t'es folle, genre t'as plein, enfin un CDI ça définit pas la fin de ta vie. Au contraire, je pense que ça signifie le début d'un autre chapitre et le début de la vie en réalité, parce que tu gagnes un salaire, quelque chose de fixe. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à vivre avant de signer un CDI. Genre mon backpack en Amérique du Sud, ou ne serait-ce que vouloir rechanger d'études. J'avais même envie de faire un service civique, j'aurais voulu refaire un autre volontariat. Et en fait, je me dis, Amélia, tu peux pas prendre genre 5 années sabbatiques, c'est pas logique de finir tes études à 30 piges et de demander à tes parents de payer ton loyer. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, mes parents, ils me diraient largement, va te faire foutre. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à vivre avant de signer ce CDI. Et c'est une pression, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie auto-pression, parce que je sais que c'est pas ma génération qui me l'inflige, mais c'est moi, je me dis, putain, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de vivre avant de me dire, bah ok, j'ai 5 semaines de vacances à poser dans l'année, j'ai ça à faire. Puis même, ne serait-ce que trouver un CDI, alors en plus, je suis en école de DA et de création, ah mais d'où Jésus, j'ai pas hâte. D'ailleurs, toute petite parenthèse, je vais prévoir, normalement, si je me porte pas l'œil et je m'organise bien, une mini-série en 2023 qui va vous permettre, 2024, oh bah voilà, je suis perdue dans les années, vous permettre de découvrir les études créatives. C'est-à-dire, je vais ramener un maximum de personnes qui font des études créatives, qu'elles soient des DM-mates, dans la pub, dans l'audiovisuel, le ciné. D'ailleurs, si jamais j'ai pas encore fait l'annonce sur Insta, je pense la faire courant semaine pro ou peut-être juste à la rentrée, enfin à la rentrée en 2024. Mais si jamais tu écoutes ça et tu es dans des études créatives et tu serais ouverte à venir sur le podcast ou me donner un peu plus d'infos dessus, moi c'est avec plaisir. N'hésite pas à m'envoyer un message sur @filmbymimo, de toute façon c'est dans la description du podcast. Parenthèse fermée. Bref, mais tout ça pour dire que j'ai peur de trouver un CDI, enfin j'ai peur de pas trouver un CDI plutôt. Puis, je pense que, en rejoignant l'idée du CDI et des études, c'est qu'il y a aussi cette crainte de non-retour. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'arrivé à un certain stade dans ma vie, je ne peux plus faire demi-tour. Genre là, je suis encore un peu à l'âge où, vas-y, tu vois, j'ai 21 ans, je peux encore me réorienter. Bon, je me suis déjà réorientée, Amélie, on va peut-être se calmer, mais je suis encore un peu dans ce truc en mode, ouais, j'ai encore un peu le temps de choisir. Et même si je sais qu'on peut se réorienter, genre ma tata, elle s'est réorientée à l'âge de, je sais pas, de voir genre 35 piges, genre elle est passée enfin, un truc marketing à infirmière. Et je me dis, c'est toujours possible plus tard. Mais pour l'instant, j'essaye d'éviter ça, du moins. Mais dans le même sens, je suis un peu en mode de, vas-y, il faut peut-être que tu te stabilises. Et je pense que la crainte de pas savoir ou de pas m'épanouir à 100%, c'est un truc, tu vois, genre ça me pèse un peu quand même. Puis, ne serait-ce qu'un truc débile dont j'ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Je crois que j'en ai déjà jamais parlé. Mais en fait, j'ai une relation avec le sommeil qui est catastrophique. Quand je vous dis catastrophique, c'est que l'autre jour, je me suis réveillée, il était 16h. Mais genre, j'ai pas fait la bringue ou quoi. Genre, j'ai vraiment dormi genre 13h ou 14h, je m'en rappelle même plus. Et en fait, j'ai un rythme horrible. J'ai un rythme d'une putain de meuf de 17 ans qui a pas de daron pour l'encadrer et qui... C'est n'importe quoi. Et en fait, genre, j'ai un rythme de sommeil catastrophique. C'est même pas, des fois, je vais pas faire de course, je vais grailler de la merde, je vais même pas... Enfin, ça de doigts, je me douche pas, quoi. En fait, j'ai l'impression que si j'ai pas quelqu'un pour m'encadrer dans ma vie ou pour suivre le rythme de quelqu'un d'autre, je m'encadre pas. Et c'est horrible à dire et c'est super débile. Mais en même temps, après, je pense que ça vient aussi de ma santé mentale avant. Et ça, je m'en voudrais jamais. Mais en même temps, ça a été hyper dur à gérer. Mais du coup, maintenant, j'arrive un peu dans un état où je suis quand même bien avec moi-même et je suis un peu en mode, bon, 2024, Amélia, c'est ta priorité. Et je me dis, putain, mais Amélia, t'as 21 ans, c'est à quel moment tu vas te responsabiliser et dire, ok, vas-y, va te coucher, genre, reste pas sur ton putain de téléphone, genre. Puis, si je rajoute à cette validation, enfin, cette auto-pression plutôt, la validation parentale et la validation familiale. C'est possible que ça soit le sujet de la semaine prochaine. Je sais pas si je veux faire un épisode entier, ça dépend de la quantité d'informations que je récolte un peu. Mais la validation parentale et familiale, si jamais tu écoutes ça du coup avant de rentrer chez tes parents pour Noël ou te retrouver autour d'une table pour un repas de famille, écoute-moi bien. C'est pas parce que, et ça c'est un truc que j'ai mis hyper longtemps à me mettre en tête moi-même, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui n'acceptent pas ou qui ne comprennent pas et ne veulent pas comprendre ce que je fais dans ma vie, que ce soit mes études, le podcast ou mes ambitions, ou mes projets, qui me regardent un peu en mode de tais-toi, trouve-toi un truc un peu plus stable, ou enfin voilà. Écoute-moi, et même moi je vais essayer de m'écouter, c'est pas parce que un tel ronchon à ta table de repas de famille ne croit pas en toi que tu ne dois pas croire en toi. Je pense que ça vient forcément d'une insatisfaction et de peut-être une forme d'inquiétude de la part de quelqu'un dans ta famille, mais c'est pas pour autant que tu dois lâcher ce que tu avais prévu avant d'arriver à cette table. Si au moment de cette table, on te rabâche ou on te termine, soit tu coupes le sujet court, soit tu te défends, soit tu laisses couler, laisses critiquer, mais promets-moi qu'à partir du moment où tu sors de cette table, tes projets resteront les mêmes et au contraire, tu t'en serviras pour un peu huiler ton projet et te donner de la déterre. Parce que la validation parentale, au fond, je sais qu'on la cherchera éternellement et c'est honnêtement un truc que je cherche toujours et je voudrais toujours que mes parents soient fiers de moi. Mais en même temps, si jamais je veux me rendre fière moi-même, si je pense que c'est un truc dont réellement il va falloir que je me détache au bout d'un moment. La pression que peut nous foutre nos parents, elle est légitime, avoir un diplôme, parce que c'est ce qu'ils ont appris eux, et je pense que depuis notre monde, c'est beaucoup plus diversifié, il y a beaucoup plus de pistons et de moyens d'arriver à nos fins sans passer par certains diplômes ou certains moyens. Et je pense que c'est un truc que j'ai essayé d'expliquer multiples fois, pas forcément à mes parents, mais à d'autres personnes de ma famille, et c'est pas quelque chose qui rentre en tête. Et je comprends que cette validation et cette pression est totalement légitime de leur part, pour certains aspects quand même, je dirais peut-être pas forcément tous les membres de ma famille qui se le permettent, mais dans un autre sens, c'est hyper compliqué à digérer, sauf qu'en même temps, je me rends compte que le moment où je m'épanouis le plus, c'est quand j'ai ma propre validation et j'arrive en plus à en tirer profit, tirer de l'argent, tirer une éducation et faire quelque chose de stable. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ils s'en rendront et rendront compte de ce que je fais a du sens, etc. Et je sais juste, voilà, c'est mon petit piqûre de rappel pour moi-même avant de rentrer pour Noël. Et ça peut peut-être être le tien avant de te mettre à table et d'entendre les mêmes commentaires d'un tonton super relou qui pense savoir tout sur le monde. Et je ne parle pas de mon tonton parce que j'en ai pas. Mais voilà, c'était un peu l'exemple, on va dire. Bref, maintenant qu'on a parlé un peu du coup, c'est un peu détaché un peu de l'autopression qu'on se met en parlant un peu de la pression que peut nous mettre notre famille. Du coup, je vais parler un peu plus de la pression que notre génération ressent en règle générale, autant qu'on se l'impose un peu à nous tous, et pas forcément qu'on se l'impose, mais du coup qu'on subit vis-à-vis des autres. Mais je voulais aborder un premier truc, c'est, je le vois partout sur TikTok en ce moment, c'est un peu en mode, ouais, entre guillemets, pourquoi tu stresses, genre à ton âge, t'as encore tout le temps. Et les réponses, c'est des captures d'écran de l'âge de toutes les stars. Par exemple, Tate McRae, elle a mon âge. Gracie Abrams, genre elle a genre 2-3 ans de plus. Sabrina Carpenter, elle a notre âge. Je pourrais en citer moult, genre Emma Chamberlain, elle a mon âge je crois, ou un an de plus, Madeleine Argy, enfin bref, que des gens méga connus, qui sont friqués au max, avec des carrières définies, qui ont littéralement notre âge. J'ai l'impression que les stars sont Olivia Rodrigo, bref, je vais pas continuer, mais bref, tout le monde est hyper jeune, et moi je suis un peu en mode, ah mon dieu, ils ont mon âge, bordel, alors qu'avant, les stars étaient toujours beaucoup plus âgées. Ou, vas-y, il y avait quelques stars qui avaient 17 ans, mais voilà, tu vois, il n'y en avait pas 500 et j'avais pas trop de pression. Et là, je commence à me dire, ouh, Amélia, tu commences à te faire un peu âgée. Et ça me met un peu une pression. Et on peut se dire, vas-y, tu vois, c'est des chanteurs, c'est des stars, genre, c'est rien. Mais en même temps, tu vois, je sais pas si ça m'était jamais arrivé avant. Et là, je vois les TikTok qui ont des millions de j'aime, donc je sais que je suis pas seule avec ce commentaire. Mais j'ai aussi vu sur un post Insta récemment, c'est une fille que je suis qui fait des dessins trop mignons. Son arrobase, je le mettrai en description du podcast. Mais c'est Chloé Lolmud. Bref, je sais pas lire, je suis vraiment dyslexique, c'est horrible. Mais en gros, c'est cité. Sur Internet, on est souvent confronté à des gens qui ont déjà réussi. Ça m'a fait du bien de me retrouver avec des gens qui débutaient comme moi. On a des doutes, on essaye parfois sans résultat immédiat. Ça me donne envie de rien lâcher. Et c'était après qu'elle ait fait du coup un événement avec Léa, avec qui j'ai fait un podcast récemment. Et ça m'a grave fait cogiter parce que ça rejoint aussi un autre TikTok d'une fille qui disait qu'elle adorait Léna Situation, mais qu'elle ne pouvait plus consommer ce qu'elle regardait, elle ne pouvait plus regarder ses vidéos. Parce que, étant quelqu'un de hyper anxieuse, elle se retrouvait en fait stressée de la voir en fait si heureuse, épanouie. Et aussi ambitieuse et réussir tant de choses. Et je me suis dit, c'est totalement vrai. Dès que je vois des personnes accomplir des grandes choses, autant des fois, ça va me motiver et de me dire, putain, c'est fou et tout. Autant des fois, tu vois, ça met une claque de se dire, vas-y, j'arrive à un âge, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Et ce serait faux de dire que je ressens ça entièrement à l'instant T, parce que je pense que le podcast marche super bien et mes projets en parallèle, et j'ai l'impression que j'ai réussi à garder un bon rythme. Mais en même temps, je te cache pas que je pense que là, ça fait peut-être un mois que je me rends compte que ne serait-ce que des statistiques baissent ou des choses comme ça, mais c'est parce que je sais que j'y mets pas la même intensité d'intention, parce que c'est logique qu'au début, j'étais pas à l'école et là, j'ai aussi une scolarité en parallèle. Et du coup, c'est de l'auto-frustration de me dire qu'il y a du potentiel dans mes idées et que je ne les utilise pas au profit de à 100%, sauf qu'il faut que je revienne à la réalité, que je me dise que c'est pas réaliste à l'instant T. Et du coup, c'est pour ça que je me suis énormément identifiée avec ce truc de voir des personnes qui lancent des projets à mon âge, parce que Léna, elle est très jeune, et de tout ce que Chloé a dit dans son projet, enfin dans son poste, de se dire que ça fait du bien des fois de se retrouver entre personnes qui sont encore en train d'essayer, qui lancent des projets, et c'est motivant de se ramener un peu à cette réalité que certes, tu ne serait-ce que là, je sais pas, j'ai mis des posts en disant que c'était un an du podcast, en me disant que ça a marché, que j'étais super fière de moi. Et peut-être que, je sais pas, en voyant ça, tu t'es dit, putain, vas-y, coup de stress, coup de panique. Et je ne voudrais pas forcément infliger ça à une personne qui regarde le contenu. Au contraire, j'espère que ça peut encourager à créer. Mais en même temps, je peux comprendre comment quelqu'un peut le recevoir comme ça. Et je ne voudrais... Enfin bref, j'ai déjà répété que je voudrais pas que quelqu'un le reçoive comme ça. Mais c'est vraiment une crainte. Et quelque chose que je compatis entièrement de cette génération qui... est très ambitieuse, très motivée, sauf que lorsqu'on est en panne de créativité, quand on n'arrive pas à lancer des projets un à un, ça peut être frustrant. Et ça, c'est une pression que je pense que notre génération, nous en particulier, nous inflige avec cette consommation des médias et cette faculté à lancer des projets, peut-être un peu plus qu'à l'époque de nos parents, ou ne serait-ce qu'il y a quelques années. En parlant de pression générationnelle, si je m'enlève du coup un peu des médias et que je me concentre un peu sur mon entourage, avant de faire cet épisode, j'ai ma meilleure pote qui est actuellement dans la pièce à côté, et on parlait, et elle me parlait, bah je lui dis, mais toi ça te dit quoi un peu la pression générationnelle, ou la pression, enfin, le fait d'être une ado un peu dans un corps d'adulte, et elle me disait, bah ma cousine là, enfin l'une de ses cousines qui va se marier, qui va avoir un enfant très certainement, une autre qui va se marier. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh. Et c'est là qu'elle a commencé à me mimer. Anna, si tu écoutes ça, tu vas te taper une barre. Mais elle a commencé à me mimer avec une poussette. Enfin, à se mimer avec une poussette. Elle me dit, mais genre là, littéralement, je pourrais avoir une poussette. Et là, elle est en mode, ouais, je comprends pas. Et c'est ouf de se dire que les chemins que nos potes prennent et que nos amis, notre famille prennent sont tellement différents. Et de se dire, wesh. Et je pense que je me remets, enfin, on se remet du coup automatiquement en question. Enfin, non, je te mets pas forcément dans le sac, ça se trouve que pas du tout. Mais du coup, moi, je me remets en question en me disant, putain, est-ce que faire autant d'études et faire aussi longtemps et devoir retarder plein d'autres projets dans ma vie, c'est vraiment utile? Parce que, ouais, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, mais en même temps, la vie peut certainement peut-être pas s'arrêter du jour au lendemain. Tu vois, c'est un peu cette frustration de yo-yo entre se dire, il y a plein de possibilités sur lesquelles je me base. Et en parlant de chemins différents qu'on peut prendre ou nos potes peuvent prendre, il y a un truc qui en ressort de ouf, enfin du moins pour moi. Encore une fois, je crois que j'ai vu un TikTok ou un TED Talk, je m'en rappelle plus, mais c'est l'argent dans les amitiés, et c'est un truc que me suis récemment posé la question suite à avoir vu la vidéo dessus. Mais c'était en mode, là par exemple, si tu dis à ton pote, vas-y, j'ai pas 20 balles pour aller manger au resto, ou j'ai pas ça pour aller graille, ou enfin c'est la galère, je peux pas faire mes courses, c'est pas la honte, enfin genre c'est normal. Mais en fait, je me dis que là, dans quelques années, on va commencer tous à avoir un salaire avec mes potes. Et du coup, avec Anna, on avait fait une promesse en mode, jamais les thunes viendront entre notre amitié. Mais de se dire que, je sais pas, imagine ton pote, il gagne tellement plus que toi, et j'espère que bah, mes amitiés et tes amitiés sont plus solides que ça, mais de se dire que la comparaison monétaire, c'est vraiment quelque chose qui va arriver tôt ou tard dans notre vie, de se dire qu'en fait, là, c'est pas grave, genre même tes potes qui vont faire chirurgien, ils sont encore en études, enfin tu vois, il y a aucune différence, sauf que toi, t'es en train de faire des études de chirurgien, hein. Quoique je pense que t'écouterais pas ce podcast. Mais c'est ça, le truc de... les thunes et la classe sociale va vraiment venir s'intégrer dans nos amitiés. Et si jamais t'avais pas pensé à ça, je suis désolée si ça te rajoute un stress. Mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'exprimer parce que j'avais un peu l'impression d'être folle au début. Mais pour clôturer un peu ce truc de pression générationnelle, j'ai un dernier point. Et je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus claire possible. Mais imagine, il y a quelqu'un là qui est trop fort dans un domaine hyper particulier et tout, genre vraiment c'est un crack. Et cette personne a 17 ans. Non seulement c'est un crack, mais en plus des personnes disent « vas-y, mais en plus il a 17 ans, genre il est trop fort, il a créé ça, il fait ça ». Sauf que tu vois, quand tu dis « ah, il a 21 ans », c'est moins impressionnant tout d'un coup, parce que c'est un peu en mode « ouais, t'as 21 ans, tu vois, c'est normal de commencer à faire des trucs et de commencer de nouvelles choses, genre c'est plus simple de le faire quand t'es plus jeune, et quand t'es plus vieux ou quand on grandit, c'est un peu bizarre de le dire et de vraiment franchir le pas ». Et du coup, là, je suis un peu en mode, je me dis, ouais, 21 ans, même si je sais que c'est super jeune, et c'est totalement débile de dire tout ça, parce que... Même, non, je pense que je le sais pas, je pense que juste mon cerveau le sait, parce qu'on nous le répète et tout. Mais en même temps, je suis un peu en mode, putain, vas-y, 21 ans... Genre, tu vois, là, je lance un truc, c'est pas genre exceptionnel que je fasse ça à l'âge de 21 ans. J'ai l'impression que ça aurait été exceptionnel quand j'avais 16 ans. Mais maintenant, c'est un peu... Vas-y, 21 ans, tu vois, c'est un peu normal. Ou du moins, peut-être un peu moins exceptionnel, notamment quand tu vois, je sais pas, Maya Adorable, qui a mon âge, et qui a acheté un appart parisien, ok, sous prêt, mais genre, je crois que c'était genre 1 300 000. 1 300 000, j'ai même pas 1 300 sur mon compte en banque, tu vois, je suis un peu en mode waouh. Donc bon, c'était un peu mon vide-sac du fait que, vas-y, j'ai pas l'impression d'avoir mon propre âge et des choses comme ça. Mais en tout cas, j'espère que t'as pu t'identifier. J'ai pas particulièrement de conseils à mini-moi, parce que j'ai un peu l'impression que je suis encore mini-moi et qu'il faudrait que je me donne moi-même un conseil. Sauf que je pense que je me suis littéralement donné un conseil pendant tout le podcast, et tout ce que je disais, c'était... Voilà. En vrai, ce podcast n'a pas été genre en mode conseil ou quoi, parce qu'en soi, je n'ai pas donné, quoi. Enfin, je suis un peu du père comme toi, je pense, et t'écoutes ça du moins jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, j'espère que tu as kiffé. Je suis assez fière de moi, parce que ça fait quelques épisodes que je publie à l'heure et le bonjour, et pas genre 5 jours après à 17h, genre. Mais en tout cas, voilà. Je te souhaite un superbe Noël, si Noël n'est pas encore passé quand t'écoutes ça, ou pas Noël si tu fêtes pas Noël, joyeuse n'importe quelle fête que tu fêtes, voilà. Je te fais plein de gros bisous, et on se dit à la semaine pro.